L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous. Au début du mois de juillet, a eu lieu au Palais métropolitain de Limoux, près de Paris, le congrès de la métropole orthodoxe roumaine de l'Europe occidentale et méridionale. Tous les hiérarques de la métropole étaient présents. Le métropolite Joseph et son évêque vicaire Marc Nemțeanul, l'évêque Silouan de l'Italie et l'évêque Timothée de l'Espagne et du Portugal. Le métropolite Séraphin de la métropole orthodoxe roumaine de l'Europe centrale et du Nord est venu de Nuremberg comme invité. Au congrès ont participé quelques centaines de prêtres et de fidèles roumains et français de tous les pays couverts par la métropole. Le métropolite Joseph a ouvert le congrès le jeudi 1er juillet, journée qui a eu comme thème « Orthodoxie et orthopraxie ». Ensuite, le vendredi 2 juillet, les participants ont réfléchi sur le sujet « Orthodoxie et Occident ». Le samedi a eu lieu une assemblée générale. Enfin, le dimanche, la divine liturgie a été célébrée en plein air par les quatre évêques de la métropole. Trois conférences et une vingtaine d'ateliers ont été proposés aux participants. L'atelier consacré au sujet orthodoxie et mass-média a été animé par le père Julian Nista et par moi-même. Père Julian de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris, un bon connaisseur et utilisateur de l'Internet, m'a aidé à la création du site web de cette émission, ortradio.free.fr. Le 8 mai dernier, dans la paroisse orthodoxe grecque de l'Annonciation, à Lyon, il a été invité pour parler du thème « Évangile et Internet ». J'ai invité aujourd'hui le père Julian pour nous entretenir sur cet outil de plus en plus présent dans la mission de l'Église orthodoxe. À l'aube du troisième millénaire, l'Internet est devenu un moyen de communication d'une puissance et d'une efficacité sans précédent. L'Église orthodoxe est présente sur cette toile informatique qui peut être utilisé comme le filet des apôtres devenus pêcheurs d'hommes. Chaque diocèse orthodoxe a aujourd'hui son propre site officiel. Des forums de discussion, des études bibliques, des messages pastoraux se multiplient de plus en plus sur le net. Grâce à l'Internet, cette émission, l'Église orthodoxe aujourd'hui, est accessible à tout moment et dans le monde entier à travers le site orthodoxie.com. Avant de nous parler de la présence orthodoxe sur Internet, j'ai demandé au père Julian Nista de nous dire quelques mots sur le congrès.
Le congrès de la métropole orthodoxe roumaine de l'Europe occidentale et méridionale se tient tous les deux ans et sont invités des prêtres et des laïcs, des paroisses, des trois diocèses de notre métropole qui participent à des conférences, à des ateliers pendant plusieurs jours. Cette année, le congrès s'est tenu entre jeudi 1er juillet et dimanche. Et il y a eu plusieurs moments forts. Jeudi 1er juillet, avec la conférence du père Patrick Juvlaik ou de la paroisse Saint-Nicolas de Bruxelles, qui est spécialiste en droit canon.
Qui est aussi responsable, n'est-ce pas, du bureau de l'Église orthodoxe roumaine auprès de la communauté européenne à Bruxelles.
Tout à fait. Et qui a parlé de la conscience canonique et spécialement de la conscience canonique aujourd'hui et dans les conditions de vie des orthodoxes en Occident. Dans l'après-midi, il y a eu des ateliers en roumain et en français avec les prêtres et laïcs sur des thèmes connexes à la conférence sur la conscience canonique donc. Après, vendredi, il y a eu deux conférences. Nous avons eu comme invité Monseigneur Séraphin, métropolite pour l'Europe centrale et du Nord, qui a parlé sur la prière en général et d'une manière concrète sur la modalité de la prière. Aussi, il y a eu une deuxième conférence vendredi par le père Noël Tanazak, qui est prêtre de notre métropole sur Paris. Lui, il a parlé de l'orthodoxie et l'Occident, de la présence chrétienne et orthodoxe en Occident, avec un chapitre plus important sur l'orthodoxie francophone et la rencontre entre l'orthodoxie francophone et les autres communautés orthodoxes, roumanophones, russophones, qui sont arrivées en Occident, notamment le XXe siècle. Dans l'après-midi du vendredi, il y a eu plusieurs ateliers sur des thèmes différents, comme par exemple l'atelier que moi-même et vous, Bogdan, nous avons animé sur l'orthodoxie et mass media. Nous avons parlé des différents aspects de l'utilisation des médias par les orthodoxes et bien sûr d'une manière pratique en Occident, dans des chapitres comme l'Internet, l'utilisation des sites Internet pour les paroisses et des groupes d'information et de discussion pour les communautés. Aussi des médias traditionnels comme les revues. Notre métropole a une revue qui est bien appréciée, Apostolia, une revue mensuelle et des revues paroissiales. Mais aussi nous avons parlé de la communication en général, communication des orthodoxes dans les médias en Europe occidentale comme la radio, la télévision, des différents aspects de cette communication.
Et la plupart des participants à cet atelier, comme d'ailleurs à ce congrès, ce sont des prêtres roumains. C'est vrai, j'ai essayé surtout à les encourager de dépasser un petit peu ce cadre strictement roumain, parce que surtout pour les prêtres qui sont par exemple en Italie, il s'agit des communautés très récentes et donc il y a des priorités pastorales qui sont tout à fait compréhensibles. Mais j'ai essayé de les encourager justement de parler aussi de l'orthodoxie en général, de l'Église orthodoxe en général, donc au-delà de ces manifestations à caractère local et national. Mais c'est vrai que leur intérêt s'est concentré surtout sur l'Internet et notamment sur leur désir d'avoir des sites de leurs paroisses respectives.
Oui, nous avons parlé de l'utilité des sites paroissiaux dans les conditions des paroisses en Occident, qui ne sont pas des paroisses de quartier ou de village, mais les paroissiens, les orthodoxes, sont éparpillés sur des dizaines ou des centaines de kilomètres des fois. Et alors, l'Internet, qui est devenu un outil généralisé aujourd'hui, aide les paroissiens à prendre contact avec leurs prêtres, avec la paroisse. Ils puissent être informés sur le programme liturgique, avoir des annonces des événements qui se passent dans la paroisse et information des contacts en général. Et puis, bien sûr que pour les paroisses qui ont une activité plus riche et plus développée, les sites internet peuvent contenir d'autres rubriques. Mais il s'agit surtout d'une nécessité pastorale d'avoir un site internet aujourd'hui, même si c'est très simple avec les quelques rubriques que je viens de mentionner.
Le site de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale a été pensé aussi pour accueillir tous ces sites paroissiaux, n'est-ce pas?
Oui, nous avons le site mitropolia.eu et nous avons créé des sous-domaines pour les paroisses. Il y a déjà 5 paroisses qui ont des sous-domaines sur le site mitropolia.eu. C'est un souci aussi de la pastorale que nous avons dans la métropole roumaine pour donner cet outil aujourd'hui indispensable aux paroisses et d'une manière, bien sûr, d'une manière gratuite.
Oh.
parlons davantage sur la présence orthodoxe sur Internet, dans la lumière de la conférence que vous avez donnée à Lyon, ayant comme thème Évangile à Internet, et de l'expérience aussi dans ce domaine.
Oui, en mai, nous avons fait, je ne dirais pas une conférence, c'était plus une réflexion en commun avec les orthodoxes de Lyon. À Lyon, il y a, je crois, 4 paroisses orthodoxes, et beaucoup d'orthodoxes et différentes juridictions sont venus à cette discussion, qui a été centrée surtout cette fois-ci sur les réseaux sociaux, un outil de communication, pas forcément religieux, qui devient de plus en plus populaire aujourd'hui. Et il s'agit notamment du Facebook, que je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler, qui comprend plus de 250 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup d'orthodoxes sont présents et nous avons discuté sur les défis de ce moyen de communication, sur les avantages et les désavantages et même les éventuels dangers d'utilisation de ce moyen. Les réseaux sociaux sur l'Internet ont été conçus comme un outil pour offrir la possibilité aux gens de rester en contact avec des amis, avec de la famille. Il y a toujours des membres de la famille qui sont à l'étranger, qui sont loin. Et ces réseaux sociaux ont été conçus pour offrir la possibilité de rester en contact les uns les autres et d'avoir des nouvelles sur les amis et les membres de la famille. Mais aussi, un tel outil a été conçu aussi comme un business. Alors, s'il s'agit aussi d'un business, il faut se poser des problèmes liés, par exemple, à l'utilisation des données personnelles des membres de ces réseaux. Et comme ces outils sont assez récents, il y a des débats dans les associations et dans les milieux de ceux qui connaissent la problématique des données personnelles sur l'Internet. Donc, encore une fois, pas forcément des associations liées à la religion, mais qui mettent en garde les utilisateurs sur une possible utilisation qui n'est pas adéquate des données personnelles des gens.
Il y a eu tout récemment, n'est-ce pas, une dispute par rapport à ce qu'on a appelé le droit à l'oubli. Sur le fait qu'une fois que des données personnelles, parfois intimes, sont là sur Internet, l'utilisateur devrait avoir le droit à tout moment, quand il le désire, que certaines de ces données soient oubliées, soient effacées, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est toujours en dispute entre les législateurs et les animateurs des réseaux ou de Google.
Les lois dans tous les pays civilisés permettent aux gens de demander d'effacer, de supprimer les données personnelles sur les serveurs. Le problème est un problème pratique, c'est qu'il n'est pas clair où s'adresser et comment faire supprimer les données, parce qu'ils sont obligés par la loi de le faire. Sauf que dans le monde aujourd'hui sur l'Internet, le plus profitable business, c'est la publicité ciblée. Ça veut dire qu'en gardant des données privées des gens, comme par exemple là où ils sont localisés, la langue qu'ils parlent, leur tranche d'âge, on peut leur, entre guillemets, offrir des publicités ciblées. Donc les compagnies qui font du business sur l'Internet ont cet intérêt-là à garder les données privées et c'est pour cela qu'ils ne sont pas toujours suffisamment transparents par rapport aux moyens de supprimer ces données personnelles privées. C'est précisément ça le débat, c'est aussi ce que la communauté européenne fait avec les grands sites comme Google, mais aussi avec les autres, avec Yahoo et Facebook. C'est de leur imposer à présenter à l'utilisateur le plus simple, qui ne se connaît pas très bien dans la gestion de l'Internet, de proposer une manière claire de gérer ses propres données personnelles sur l'Internet.
Père Julian, parlons un peu de l'histoire de la présence orthodoxe sur l'Internet. Comme l'Internet est apparu tout d'abord aux États-Unis et sur le continent américain, c'était logique que l'orthodoxie américaine a eu à faire les premiers pas. Et parmi les premiers sites orthodoxes qui sont parus, on peut citer Page de la Transfiguration, qui est réalisée en français par des Québécois et qui offre toujours une base très intéressante d'un point de vue théologique et spirituel.
Oui, l'Internet a été inventé aux États-Unis et bien sûr, il s'est d'abord développé en anglais. D'ailleurs, plus de 90% du contenu qui existe sur l'Internet est en anglais. Du coup, c'est vrai aussi que la présence orthodoxe sur l'Internet s'est développée d'abord en langue anglaise aux États-Unis. Il y a des sites qui sont très bien développés et qui ont eu même des prix. Par exemple, le site de l'archevêché grec des États-Unis a eu le prix Webby, ce qui est un sort d'équivalent des prix Oscar pour le cinéma, pour leur site donc religieux. Et il y a quelques années, après, la présence orthodoxe sur l'Internet s'est développée aussi bien en russe et en roumain. Je crois que la présence orthodoxe en langue roumaine est sur le troisième place dans le monde aujourd'hui. La présence orthodoxe en langue française, elle est quant à elle plus récente. Il y a eu d'abord, parmi les sites, je veux dire, importants, les pages orthodoxes de la Transfiguration dont vous venez de parler. Et puis, en France, il y a quelques sites qui se sont développés dans les derniers 10 ans. Le plus connu, peut-être, pour ce qui est de l'information des nouvelles orthodoxes, c'est orthodoxie.com, qui travaille presque comme une agence de presse orthodoxe en langue française.
Il semble qu'il n'a pas un équivalent, même en langue anglaise.
En langue anglaise, il y a eu plusieurs sites de ce type qui, comme orthodoxie.com, qui est développé en principal par deux personnes, le père Jif Kopanev et le père Christophe Levallois, aussi pour les sites en anglais, de ce genre, étaient développés par des personnes privées et ils n'ont pas survécu plus de quelques années. C'est un travail immense et nous, on doit être reconnaissant au père Jif et au père Christophe Levallois pour ce qu'ils font pour orthodoxie.com, et on doit les soutenir et en leur envoyant des informations et des photos et pour ceux qui peuvent, même financièrement.
On peut dire qu'actuellement c'est le plus important site orthodoxe en français.
C'est le plus important site orthodoxe en français du point de vue de l'information. C'est un site dédié à l'information, c'est comme une agence de presse. Après, il y a des sites en langue française qui traitent d'autres sujets. Tous les diocèses qui sont présents en France ont leur propre site en langue française où ils parlent des paroisses, des prêtres, de l'organisation de la diocèse. Après, il y a des sites, il y a quelques dizaines de sites des paroisses qui présentent des fois pas simplement des informations basiques comme le contact, le programme liturgique, la localisation, mais aussi des nouvelles de paroisses. Après, il y a quelques sites dédiés sur un thème. Par exemple, il y a un site calendrier orthodoxe en langue française. Il y a un répertoire des sites orthodoxes en langue française. Les deux sont hébergés sur le site égliseorthodoxe.com. C'est un site que j'ai développé moi-même. Après, il y a plus de 7 ans, oui, j'ai créé le site orthodoxe à Paris, qui est un site d'information entre les membres des paroisses des différentes juridictions dans la région parisienne. Je crois que c'est ça les sites les plus importants en langue française.
Père Julian, vous avez créé et animé quelques dizaines de sites en roumain et en français, parmi lesquels aussi le site de cette émission, l'Église orthodoxe aujourd'hui, ordradio.free.fr, que nous avons développé ensemble. Parlez-nous un peu de cette expérience et de ces premiers pas que vous avez faits pour la présence orthodoxe sur Internet en roumain et en français.
Je suis venu en France pour être prêtre dans cette paroisse qui est devenue aujourd'hui la cathédrale roumaine à Paris, l'église de Saint-Archange, en 2002, il y a presque 8 ans. Mais j'ai commencé à travailler sur l'Internet bien avant, il y a 15 ans déjà. J'ai développé plusieurs sites en langue roumaine. Des pages de spiritualité, des pages de calendrier, des groupes de discussion.
Vous êtes connu en Roumanie surtout pour votre site Nistea, qui est une sorte de blog, n'est-ce pas?
Oui, Nistea.com, c'est un site de spiritualité orthodoxe, dont les plus visitées pages sont les pages des pères spirituels, comme le père Théophile, le père Arsenie Boca, le père Cléopa ou d'autres grands spirituels de la Roumanie contemporaine. Mais ça, c'est en langue roumaine. En France, j'ai développé plusieurs sites comme Orthodoxe à Paris, le site du radio et le site du monastère Pithiviers-Bondarois et d'autres sites des paroisses en France.
Le nouveau site de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale et le site qui est un projet encore de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France.
Oui, tout à fait. Le site de la métropole orthodoxe roumaine a été développé l'année dernière et il a été lancé à l'occasion de la visite du patriarche Daniel de Roumanie en France en juillet 2009. Donc. Le site de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France est en développement et nous espérons de le voir dans toute sa splendeur à la rentrée en septembre ou en octobre. Un projet que je considère très important, c'est le projet qui s'appelle Orthodox Wiki. Et je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent de participer à ce projet. Orthodox Wiki, c'est un projet de type encyclopédie ouverte, de type Wikipédia. Tout le monde a entendu parler de Wikipédia. C'est comme une Wikipédia orthodoxe, Orthodox Wiki, qui a été inventé par un prêtre orthodoxe américain il y a 10 ans et qui s'est développé en 10 langues aujourd'hui. Je suis l'administrateur pour la langue roumaine et pour la langue française. Il me semble important de travailler ensemble sur un projet. Chacun, nous avons tendance de se concentrer sur son propre site comme sur une perle qu'on a et qu'on possède. Mais c'est beaucoup plus profitable de travailler d'une manière communautaire sur des projets en commun. Orthodox Wiki en français a à ce jour quelques centaines d'articles de type encyclopédique, comme un dictionnaire ou comme une encyclopédie orthodoxe en ligne, où chacun peut participer au développement des articles. Si on n'a pas des compétences théologiques, on peut même faire des corrections de grammaire. On peut avoir même une petite participation.
Et comment fonctionne ce projet? Donc chacun peut participer en envoyant des articles ou des corrections ou des suggestions. Et il y a une commission, il y a des responsables comme vous par exemple qui sont là pour s'assurer que l'information retenue à la fin est correcte.
C'est une bonne question. Effectivement, pour toutes les langues, il y a des administrateurs qui sont des prêtres orthodoxes et des théologiens, des gens qui sont censés avoir des compétences dans le domaine de la théologie et de l'histoire orthodoxe. Ce sont eux qui surveillent la rédaction des articles. Tout le monde peut se créer un compte d'utilisateur et créer des articles. Il s'agit de créer des articles, il ne s'agit pas de publier des textes qui ont été déjà publiés ou des textes personnels des grands théologiens. Donc, je répète, c'est une encyclopédie. Et les articles, c'est des articles de type encyclopédique qu'on les écrit au fur et à mesure par la participation souvent de plusieurs personnes, chacun apportant sa connaissance. L'avantage du projet de type Wiki, c'est que toute modification du projet, d'un article, est réversible. Et donc, les administrateurs peuvent pas simplement corriger, mais même annuler des modifications des gens qui sont malveillants, des gens qui écrivent des bêtises. Et donc, comme ça, le projet est gardé propre et sûr.
Donc, pour les auditeurs qui veulent connaître davantage l'orthodoxie, ils peuvent consulter l'encyclopédie Orthodox Wiki, à titre gracieusement. Donc, ils doivent tout simplement écrire sur Google Orthodox Wiki, Wiki avec W et K.
Et Orthodox sans E à la fin, parce que c'est comme ça a été créé en anglais d'abord, c'est Orthodox, comme en anglais. Et donc, pour chaque langue, il y a un sous-domaine fr.orthodoxewiki.org pour le français par exemple. Pour consulter l'encyclopédie, il ne faut pas avoir un compte, tout le monde peut consulter l'encyclopédie. Pour y participer, pour collaborer à la création des articles, il faut avoir un compte utilisateur.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra et Saint-Antoine le Grand et la chorale Stavropoléos de Bucarest. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.